Frotter les bords de l'omelette avec la fourchette de façon à ce que la cuisson se fasse très très rapidement, de façon à obtenir une omelette parfaitement baveuse.
Ah bon, très bien. Alors je vois que l'aiguille se balance un peu de tous côtés comme il faut.
C'est
Et
bon signe.
oui. Et alors je pense que nous pourrons commencer l'interview si vous voulez. La première question, c'est depuis combien de temps habitez-vous à Orléans?
J'habite à Orléans depuis 21 ans.
Depuis 21 ans.
Depuis 21 ans.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans?
Eh bien, je suis donc ingénieur agronome, je sors de l'Institut national agronomique de Paris. Et lorsque j'ai fini mes études, on m'a proposé le choix entre différentes situations. Alors l'une était dans le nord de la France, l'autre en Bretagne, et la troisième était à Orléans. J'étais à cette époque-là parisien. Et j'ai été séduit par le site. J'ai pensé que 120 km au sud d'Orléans me paraissait une situation très favorable, dans la mesure où on reste à proximité de la capitale, ce qui est toujours important pour un Parisien. Et ensuite, c'était pour moi la porte du sud, puisqu'on avait déjà fait 120 km soit vers l'ouest, soit vers le sud-est, région que j'aime beaucoup, la région des Alpes. Donc, on gardait contact avec le nord, qui pour moi a toujours été la région traditionnelle, la plus grande activité économique, et on était à la porte du sud. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Orléans.
Et Orléans, la ville elle-même, vous plaît?
Orléans est une ville qui ne me déplaît pas, je dirais qui ne me déplaît pas, en ce sens que c'est une ville calme, c'est une ville qui n'est pas trop agitée, qui n'y a pas beaucoup de vols, il n'y a pas beaucoup de crimes, enfin c'est une ville assez calme. On ne peut pas dire qu'elle soit très jolie, mais je me plais beaucoup à Orléans, je dirais d'autant plus que je n'y suis personnellement pas tellement. Mon activité se situe essentiellement à la campagne. Mon rayon d'action est de 300 km, si vous voulez, autour d'Orléans. Cette carte, hélas, n'est pas pour le décor, hein, c'est ma zone d'action. Et si vous voulez, sur 7 jours par semaine, je suis au moins 4 jours à l'extérieur d'Orléans, dans toute la région centre. Par conséquent, au fond, je ne vis pas tellement la ville d'Orléans, personnellement. Mais enfin, ma femme est à Orléans, elle est professeure à Orléans. Mes filles sont étudiantes à Orléans, elles se plaisent bien à Orléans, oui.
Orléans vous paraît une ville typique?
Pas spécialement,
Non.
non, pas spécialement. Je vois Orléans comme une ville en pleine évolution, en ce sens que en 20 ans, elle a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé naturellement dans son aspect extérieur, dans ses constructions, mais surtout par sa population. Il y a 20 ans, je pense qu'on pouvait dire qu'Orléans était une ville de retraités beaucerons. Vous savez maintenant ce que c'est que les beaucerons,
Oui,
ce sont
oui.
des paysans qui ont fait fortune dans la culture des céréales, qui venaient donc se retirer à Orléans. C'était une ville par ailleurs peu industrielle, hein, à part les quelques industries alimentaires. C'était une ville de militaires, donc c'était une ville froide, une ville morte et une ville vieille. Parce que le marché, elle avait été considérablement démolie suite des combats de 1940 et des bombardements des Américains de 42, 43, 44. Et cette ville, tout doucettement, s'est rajeunie, est devenue de plus en plus industrielle, est devenue beaucoup plus commerçante aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui sont venus s'installer à Orléans. Et puis enfin, surtout, le fait nouveau, c'est la création de l'Université d'Orléans depuis 5 ou 6 ans, qui a drainé sur Orléans un nombre de jeunes considérables et qui a donc rajeuni la population. D'ailleurs, ça se traduit par le fait qu'au point de vue équipement sportif, Orléans, il y a 20 ans, il n'y avait absolument rien. Or, depuis, on peut dire, une dizaine d'années, ma foi, se multiplient les équipements sportifs, en particulier les salles couvertes pour faire du sport et du tennis.
Et comment est-ce que vous expliquez alors le développement d'Orléans?
Eh bien, comment j'explique le développement d'Orléans? Je pense que c'est un phénomène assez général de toutes les cités périphériques à 150 km autour de Paris. Je pense d'ailleurs que ça doit être très vrai aussi à l'échelon européen. Enfin, c'est un phénomène qui ne doit pas être
Oui.
tellement particulier à Orléans. Je pense que c'est sa situation favorable, en ce sens que on a de moins en moins envie d'aller à Paris, mais on a quand même assez envie de ne pas en être trop loin. Mm-hmm. Je pense qu'il s'est passé pour beaucoup de gens ce qui s'est passé pour moi. Le plaisir, en somme, de vivre une ville qui reste à la dimension humaine, si vous voulez.
Oui, oui, oui. Mais pas toutes les villes de cette dimension autour de Paris ont une nouvelle université.
Eh bien oui, alors il y a le facteur université est très important, sûrement. Oui. Le rajeunissement, ça c'est l'université.
Oui. Oui. Est-ce qu'on a choisi Orléans comme centre universitaire
Oui, bien c'est. Enfin, qu'est-ce qui a décidé du choix d'Orléans pour une deuxième université Je pense que c'est le résultat d'une volonté très affirmée du maire actuel, M. Secrétin, que vous connaissez maintenant sûrement, et qui a tenu, si vous voulez, à voir sa ville évoluer, et qui a, lorsqu'il a été question de créer de nouvelles universités pour dégorger l'université parisienne, qui était devenue monstrueuse, il a sauté sur l'occasion, je crois, pour dire on peut faire université à Orléans, d'autant que la ville d'Orléans a acheté, vous le savez sans doute maintenant, hein, ce territoire de 800 hectares à Saint-Cyr-en-Val. Donc le maire d'Orléans a pu dire, voilà, j'ai la place pour faire université, j'ai des terrains et j'ai des crédits puisque j'ai une ville qui a envie d'avoir une université. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé.
Oui, oui. Et comment voyez-vous le développement de d'Orléans à l'avenir? On m'a dit qu'il va y avoir un aérotrain qui relie
Cet aérotrain est d'ailleurs en construction.
Oui.
Il est en construction. Si vous avez l'occasion d'aller à Paris par la route ou par le train, vous pourrez voir une ligne en béton armé qui passe parallèlement à la voie ferrée actuelle, environ une centaine de mètres. Et cet aérotrain, que je sache, est déjà réalisé sur une quinzaine de kilomètres. On pense qu'il sera opérationnel, on dit ça maintenant en français, on pense qu'on pourra s'en servir utilement, si vous voulez, dans 4 ou 5 ans. À ce moment-là, Orléans sera relié à Paris en 20 minutes. Remarquez que déjà actuellement, vous le savez sans doute, on est à exactement 1h05 de la gare d'Orsay, hein, en plein centre de Paris. Je pense d'ailleurs que ça ne changera pas grand-chose. Vous savez, entre 1h05 et 20 minutes, ce ne sera pas très différent. Enfin, je crois savoir qu'il est prévu un développement urbain très important d'Orléans, Blois-Tours. Il est prévu, en somme, une urbanisation de toute la vallée de la Loire, depuis Gien jusqu'à Tours.
Ah oui.
Objectif, si vous voulez, dans 20 ans, quoi. Enfin, dans 30 ans, en 2000. Mm-hmm. Enfin, il est certain que l'agglomération parisienne ne peut plus tellement s'étendre facilement, et je crois savoir qu'il est prévu, en somme, que l'urbanisation se fasse à une distance de 150 km de Paris, à peu près.
Ce qui va changer beaucoup les paysages de la Loire, je suppose.
Oui, sûrement.
Oui.
Sûrement.
Il y aura sans doute beaucoup de gens qui ne voudraient pas voir ces changements-là.
Bien sûr, bien sûr. Enfin, je crois que c'est irréversible, on n'y peut rien. Il y a un développement de la population et il est plus normal, si vous voulez, qu'on utilise cette voie importante qu'est la Loire, et qui est tout de même très favorable pour la création des réseaux d'assainissement ou bien même pour même utiliser de l'eau pour les besoins en salle domestique. Je pense que de suivre un fleuve comme la Loire, c'est plus commode, si vous voulez, que faire des constructions autour de Paris sur un terrain qui n'a au fond, qui n'y est pas destiné du tout. Bah, les paysages de la Loire, bien sûr, seront, dans une certaine mesure, enfin, sont très modifiés, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. Est-ce que vous voudriez m'expliquer ce que c'est que le travail d'un ingénieur agronome?
Ah, mais très volontiers. Bon, alors d'abord, un ingénieur agronome, c'est pas une profession, c'est un titre universitaire.
Ah oui, hein?
Donc, mon métier, c'est d'être ingénieur conseil. Je suis ingénieur conseil en équipement de collectivités publiques rurales. Je ne sais pas si c'est très clair. Enfin, en clair, voilà ce que ça veut dire. Je suis spécialiste en hydraulique, par ailleurs, et je fais des projets de travaux concernant des collectivités locales rurales, c'est-à-dire des communes rurales, c'est-à-dire des syndicats intercommunaux, à chaque fois qu'il y a un problème d'eau. Alors, par exemple, je fais des projets d'aménagement de rivières. Prenons un exemple concret. Dans cette région du centre, qui s'appelle la Brenne, vous pouvez voir sur cette carte qu'elle est couverte d'étangs. Hein, vous voyez, sur la carte Michelin, nous avons une densité.
À l'ouest de Châteauroux.
À l'ouest de Châteauroux.
Oui, c'est ça.
Cette zone est donc très ennoyée. Hein, et on en a décidé l'aménagement hydraulique, c'est-à-dire l'évacuation, l'assainissement par l'aménagement des rivières. L'aménagement des rivières, c'est quoi? Ça veut dire rendre les rivières plus profondes, plus droites, de façon à ce que l'eau s'écoule plus vite et ne stagne pas. Alors, en tant qu'ingénieur conseil, je fais des projets d'aménagement de rivières, c'est-à-dire que je décide du tracé le plus favorable. Je fais l'estimation de la dépense de terrassement, je calcule les ouvrages de franchissement, c'est-à-dire les ponts, les barrages de retenue d'eau. Voici un exemple de travail de syndicat intercommunal. Bon, ensuite, j'ai dans ma clientèle, alors je précise que je suis ingénieur conseil privé,
oui.
Je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. J'interviens, si vous voulez, du point de vue administratif, un peu comme un architecte. Et j'ai comme autre client, si vous voulez, des particuliers qui ont des problèmes de drainage. Problème de drainage, alors je pense que vous savez ce que c'est, mais enfin je le rappelle, cela consiste à donner à des sols qui ne sont pas perméables la faculté de se faire traverser par l'eau de façon à en faire des sols cultivables au même titre que des sols sains naturellement. Alors ça, je fais beaucoup de projets de drainage dans toute la région. Enfin, à mon échelle, ça représente pas mal, si vous voulez, environ 1000 hectares par an. Alors là, j'ai donc là une clientèle privée. Alors, sur le plan de l'hydraulique pour collectivité locale, je fais aussi beaucoup de projets d'adduction d'eau. Dans les communes rurales, dans la région centre, toutes les communes ne sont pas desservies en eau potable sous pression. Ah non?
Pas encore.
En Angleterre, c'est fini?
Je ne sais pas si, par exemple, dans le Pays de Galles ou dans certaines petites communes de l'Écosse,
oui.
Il manque peut-être des adductions d'eau, mais on a l'impression qu'à part cela, c'est...
On pense que c'est fini.
Oui, je crois. Oui. Marquez que l'Angleterre, c'est un pays beaucoup plus petit.
Oui, avec une densité de population beaucoup plus grande, et puis enfin un pays industriel, donc la rentabilité de l'opération était beaucoup plus évidente.
Oui.
En tout cas, je peux vous donner des informations précises en ce qui concerne la région centre. En ce qui concerne le Loiret, c'est pratiquement terminé. Hein. Pratiquement toutes les maisons habitées du Loiret disposent d'une eau potable, donc contrôlée et sous pression. C'est pratiquement fini. Par contre, dans le département de l'Indre, dans le département de l'Indre-et-Loire ou du Cher, en Eure-et-Loire, c'est fini aussi. Enfin, dans les départements que j'ai cités, l'adduction d'eau n'est faite, en ce qui concerne les communes rurales, qu'à 50-60%. Je fais donc des projets d'alimentation en eau potable. Ensuite, je fais aussi l'évacuation des eaux usées. On a apporté de l'eau potable, ensuite cette eau est utilisée, elle devient inutilisable, il s'agit de la rendre au réseau après épuration. Donc les réseaux d'égouts, stations d'épuration. Tout ceci fait partie de mon activité. Et enfin, si vous voulez, de l'irrigation. Je fais des projets d'irrigation essentiellement à partir de retenues collinaires, c'est-à-dire des étangs artificiels. Hein, on barre une vallée, un talweg, par une digue, on retient les eaux de ruissellement, ce qui permet de les utiliser l'été pour faire de l'arrosage. Donc d'une façon générale, tout ce qui est eau au service de l'agriculture. S'il y en a trop, j'en enlève, s'il n'y en a pas assez, j'en apporte. Si elle n'est pas potable, on la rend potable. Si elle est usée, on l'évacue. Voilà quelle est mon activité d'ingénieur conseil en hydraulique agricole. Alors je précise que ma mission est complète en ce sens que je fais les projets et je suis aussi le directeur des travaux. Alors le directeur des travaux, c'est la personne, si vous voulez, qui est responsable de l'exécution, et c'est une responsabilité complète dans la mesure où il y a même responsabilité décennale, c'est-à-dire que pendant 10 ans, je suis responsable des travaux qui ont été faits et je suis responsable pécuniairement, comme un architecte pour une maison.
C'est un travail très varié.
C'est un travail qui est assez varié, oui, avec une zone d'action assez grande, puisque, si vous voulez, j'avais un coup de téléphone à l'instant d'une personne pour laquelle j'ai fait un drainage, vous voyez, au sud de Bourganeuf. Alors, Bourganeuf, vous voyez, c'est assez loin,
oui.
C'est en Creuse, hein, c'est à 300 km d'Orléans, et au nord, j'ai des travaux de drainage dans l'Oise, hein, à 80 km de Paris au nord. Je suis donc amené à connaître des terrains très très différents, des paysages très différents, et aussi des clients très différents. Si vous voulez, j'ai en Creuse des paysans très traditionnels. On voit encore en Creuse des labours se faire avec des bœufs. Plus beaucoup, mais enfin on en voit encore. Et à côté de ça, si vous voulez, dans l'Oise, des exploitations agricoles très industrialisées, enfin qui atteignent des niveaux d'industrialisation, je pense, qu'on ne peut pas atteindre des niveaux plus élevés en Europe, ou enfin même en Amérique sûrement d'ailleurs. Point de vue rendement, dans ces régions-là, on arrive à des rendements en blé de 65 à 70 quintaux à l'hectare. Les Américains n'arrivent pas à ça. Donc, sur le plan technique, donc une grande variété. Puis alors, surtout, au point de vue collectivité, mes clients sont aussi bien un seul particulier qu'une commune, une commune de 1000 ou 2000 habitants, qu'un syndicat de communes de 20 communes, et même l'État. Je vois par exemple, me sont confiées aussi des études régionales en ce qui concerne l'hydraulique. Je vois par exemple, en Charente, j'ai une étude économique dont l'objet consiste à définir a priori la rentabilité de travaux d'hydraulique intéressant le territoire des deux tiers du département. Alors là, c'est l'État qui me confie cette étude, donc mon client, c'est l'État. J'ai donc affaire à une variété très grande de personnes, en somme, en tant que clientèle. Je travaille donc à différentes échelles, et c'est ce qui fait que ce métier est évidemment passionnant, oui. C'est sûr.
Oui. Oui, je vois.
Mais par ailleurs, assez fatigant, parce que je me déplace beaucoup, en voiture, il n'y a pas d'autre moyen de transport, donc ça représente un certain risque, et puis aussi, tout de même, une fatigue physique assez grande. Je fais 50 000 à 60 000 km par an. Alors...
Ah oui.
C'est assez fatigant.
Oui. Des journées très longues, sans doute.
Ah, ben des journées très longues, bien sûr. Lorsque je pars, il m'arrive d'aller en Creuse par là, je pars à 6 h du matin, et je rentre à 10 h du soir, 11 h du soir, minuit, 1 h du matin, 2 h du matin. Enfin, ce qui me passionne le plus d'ailleurs dans mon métier, c'est pas tant l'aspect technique, hein, ça c'est ce que j'ai appris, si vous voulez, à l'Institut, mais c'est l'aspect collectivité publique. La plupart de mes clients sont des collectivités qui sont souvent d'ailleurs créées spécialement pour résoudre le problème. Je suis donc, si vous voulez, en même temps spécialiste des problèmes administratifs de création de collectivités. Et ça, ça me paraît, c'est ce qui est le plus passionnant, c'est ce qui est d'ailleurs le plus difficile. Je pense d'ailleurs que dans notre pays, ça doit être encore plus difficile qu'ailleurs, parce que je crois que le français est très individualiste et toutes ces collectivités sont toujours des collectivités très artificielles. On a beaucoup de mal à faire saisir à des gens que leur problème est commun. Ça veut dire qu'ils doivent accepter un certain nombre de concessions mutuelles. Et c'est, si vous voulez, c'est toute une éducation à donner aux gens avec lesquels on travaille. Parce que les collectivités, en général, n'existent pas avant que nous intervenions. Nous les créons spécialement pour la réalisation des travaux.
Ah oui.
Par exemple, vous avez donc ici une rivière à aménager. Le problème posé sous cette forme... responsables administratifs de la région disent il faut absolument que cette rivière soit aménagée. Bon, mais qui va être ce qu'on appelle le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire qui va être la personne morale responsable de l'opération? Ça ne peut être qu'un syndicat intercommunal, c'est-à-dire une union des différentes communes riveraines, enfin traversées par la rivière, et il faut donc que faire la liaison, créer cet organisme, hein, cette union de communes, ce syndicat de communes, et c'est toute une procédure administrative assez complexe, et finalement, bien que ce syndicat soit créé, chacune des communes, finalement, se considère comme un peu indépendante et accepte difficilement les contraintes de la collectivisation de l'opération.
Ah oui, oui, j'ai entendu dire la même chose pour... ce n'est pas un syndicat intercommunal comme on l'a... qu'on appelle cela, pour le groupement des communes autour d'Orléans.
Oui, pour la création d'un district.
Oui, c'est ça, oui.
C'est ça.
Qu'il y a des difficultés
à
cause des sentiments d'indépendance des communes entourantes.
C'est ça. Je pense, je connais assez mal, si vous voulez, les autres pays d'Europe pour pouvoir faire des comparaisons. Mais je suppose, je connais tout de même assez bien la mentalité allemande pour l'avoir un petit peu pratiquée il y a une vingtaine d'années. Je suppose que ça doit être plus difficile chez nous que chez les Allemands en particulier. Je manque d'informations en ce qui concerne l'Angleterre, mais enfin ça, vous n'en manquez pas, sans doute.
Je crois que oui, il y a une longue tradition d'indépendance pour les collectivités locales, mais il est vrai que les collectivités locales ont eu toujours beaucoup plus de pouvoir réel qu'en France, je crois. C'est-à-dire que, par exemple, les comtés en Angleterre ont une certaine indépendance financière vis-à-vis des services d'enseignement dans leur comté. Mmh. Et c'est très différent que de dépendre directement du ministère.
Oui, en fait, en France, les collectivités locales ont très peu d'initiatives authentiques dans la mesure où elles sont sous la tutelle financière quasi intégrale du pouvoir public. Lorsqu'un syndicat intercommunal engage des travaux d'aménagement de ce genre, il ne faut pas oublier qu'il y a 60% de subventions de l'État, il y a 20% de subventions du département, et il ne reste que 20% à la charge des communes, et ces 20% sont couverts par des prêts en 30 ans avec un taux d'intérêt très faible, de l'ordre de, remarquez, ça a monté depuis quelques années, mais enfin de l'ordre de 3 à 4%. Autant dire que ça ne représente pratiquement aucune charge pour les communes. Il est bien évident que dans ces conditions, ce n'est pas authentiquement la commune qui a le pouvoir de décision, mais beaucoup plus les fonctionnaires de l'État.
Oui.
C'est un peu une fiction, ces collectivités locales.
Oui. Votre femme, vous avez dit, travaille aussi.
Elle est professeure de sciences naturelles.
Ah oui.
Professeure de sciences naturelles à l'école normale d'institutrice d'Orléans.
Elle a toujours travaillé.
Elle a toujours été professeure, oui. D'ailleurs, c'est une tradition de famille. Est-ce que je peux me permettre de vous offrir?
Oui, bien sûr. Non, moi, je ne fume pas.
Ah, jamais?
Non, jamais.
Bon, et ça ne vous dérange pas?
Non, pas du tout.
Merci.
Pas du tout.
Oui, ma femme a donc fait sa licence de sciences naturelles, a toujours enseigné, et en principe, elle enseignera toujours, étant entendu que nous pensons que il est normal que dans un foyer, chacun ait son activité. C'est beaucoup plus enrichissant qu'une femme ne soit que la femme au foyer et qu'elle soit que la mère de ses enfants. Enfin, il a toujours paru qu'il y avait un équilibre intellectuel à avoir entre les deux partenaires.
Oui, ça c'est une des raisons, parce que je crois que cela on trouve moins en Angleterre. Il y a beaucoup moins de ménages où mari et femme travaillent.
Ah oui?
Oui, j'ai l'impression. Je n'ai pas fait d'études, mais...
Des statistiques, oui.
Non. Il y a en Angleterre une réaction assez forte contre les femmes qui travaillent. On dit que la femme devrait rester au foyer avec les enfants, être toujours là pour le mari quand il rentre, etc. Vous ne trouvez pas cela?
Personnellement, pas du tout. Si vous voulez, j'ai connu ma femme, nous étions étudiants tous les deux. Nous étions habitués à travailler tous les deux, on s'est toujours connus comme ça, et on trouve tout à fait naturel que nous travaillions tous les deux. Quant à nos enfants, j'ai une fille aînée qui a 20 ans, elle est donc étudiante, elle est élève professeur de mathématiques, elle sera donc professeure de mathématiques. Et quant à la seconde, elle est étudiante aussi, elle sera elle sera professeure d'anglais en principe, et tout va bien.
Oui.
Dans ma famille, il est de tradition que l'épouse ait une activité intellectuelle. Je veux bien employer le terme de travailler, mais enfin, disons qu'il nous paraît très naturel qu'une femme ait une activité intellectuelle, outre que de faire le ménage ou de faire la cuisine. Enfin.
Mm-hmm.
Non, évidemment, ça pose des problèmes, c'est-à-dire que, bien sûr, notre vie est plus complexe que si ma femme avait disposé d'un grand loisir. Maintenant, il faut reconnaître aussi que son métier est très favorable, parce que professeur, et je crois savoir qu'en Angleterre, ce n'est pas la même chose, un professeur en France n'est astreint qu'à un nombre d'heures à l'extérieur assez limité. Je crois savoir que ma femme ne fait que 15 ou 16 heures de cours. Ce qui n'empêche bien sûr qu'elle a un gros travail de correction à la maison, de préparation de cours, mais elle est tout de même chez elle. Ce qui fait que finalement, elle n'est guère que 16 heures en dehors de son foyer, ce qui n'est pas beaucoup. Donc j'estime que, enfin, pour une femme, c'est un métier tout à fait compatible avec celui de maîtresse de maison.
Mm-hmm. Et vos deux professions vous laissent des loisirs quand même?
Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça, sincèrement, c'est ce que je regrette le plus. C'est tout de même d'avoir peu de loisirs et donc de ne pas pouvoir, si vous voulez, continuer à lire beaucoup, à me cultiver, à faire du sport. J'ai peu de loisirs, très sincèrement, j'ai peu de loisirs. Je prends peu de vacances. Je prends 8 jours à Noël, faire du ski. 8 jours à Pâques pour faire du ski. J'ai toujours fait du ski et j'aime bien faire du ski. Et pratiquement, je ne prends pas de vacances d'été. Vous voyez, je prends seulement 2 fois 8 jours. Et dans la semaine, eh bien, samedi, après-midi, dimanche, c'est tout. Et dans la journée, alors absolument pas. La journée ne se finit pas. Enfin, ne se finit pas. Non, elle commence à 7h du matin et elle se finit à 8h, 9h, 10h.
Est-ce que vous voudriez me dire, à titre d'exemple, comment vous avez passé dimanche dernier?
Eh bien, j'ai fait du tennis.
Ah oui?
J'ai fait du tennis. Je fais du tennis tous les samedis, pratiquement tous les samedis après-midi et tous les dimanches matin. Voilà.
Ah oui.
Mon loisir...
Si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous en feriez?
Je lirais. Je lirais davantage. Je lis toujours un peu, je lis toujours le soir avant de m'endormir, mais je lirais davantage.
Ah oui.
Oui, bon, il est évident que du fait que toute la semaine je me déplace, je n'ai absolument aucune envie le dimanche de me déplacer. Je n'ai pas tenté du tout. Et enfin, mon meilleur loisir, c'est le sport. Si je n'étais pas si loin des Alpes, eh bien, j'irais en week-end faire du ski.
Et les enfants maintenant, vous avez 2 filles, vous avez dit. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait surtout apprendre aux enfants à l'école?
Bien, je pense d'abord qu'on doit leur apprendre bien beaucoup de choses. Je veux dire par là que l'enseignement doit être, à mon avis, très ouvert. J'ai moi-même reçu une formation assez ouverte, en ce sens que j'ai fait des études de lettres, français, latin, grec, langue, et en même temps mathématiques. Donc, j'ai passé un baccalauréat de philosophie-lettres et un baccalauréat de sciences. Je considère que ça n'est pas du temps perdu. Et ensuite, on devrait accorder au sport une place beaucoup plus grande. Enfin, moi-même, je suis très sportif, ma femme aussi, parce que ma femme joue au tennis, mes filles jouent au tennis, font du ski, de la natation. Et je regrette que dans l'enseignement, on ne laisse pas plus de temps, en somme, au sport. Je pense qu'on ne doit surtout pas spécialiser les enfants et je pense qu'on ne doit absolument pas leur apprendre un métier. On doit leur donner une culture, mais surtout pas un métier. Ils ont bien le temps de l'apprendre le jour où ils auront choisi une direction. Il est absolument évident que tout ce qu'on peut avoir appris à l'école ne sert absolument à rien si c'est purement technique et pragmatique et d'application immédiate, parce que ça se trouve périmé au bout de très peu de temps. Et puis enfin, ce qu'il faut, c'est apprendre à faire travailler son esprit. Donc, je suis pour la culture, une culture générale la plus ouverte possible. Je pense qu'il n'y a absolument aucune opposition entre une formation littéraire et une formation scientifique. Ça n'existe pas. La pensée, à mon avis, est unique. Elle est aussi apte à faire du grec qu'à faire des mathématiques. Dans ce sens, d'ailleurs, je ne suis pas du tout dans la voie actuelle. Puisque actuellement, on prétend qu'on a besoin d'ingénieurs, donc il faut faire des mathématiciens. C'est absolument stupide. Pour faire des ingénieurs, il n'y a aucun inconvénient qui s'est fait du grec. Enfin, j'en suis la preuve et j'en ai beaucoup de mes camarades dans ce cas-là.
Oui. Est-ce qu'il,
mes
est-ce
filles qu'il y a... ont fait du grec, l'une et l'autre.
Ah oui?
Bien sûr.
Ah oui. Et est-ce qu'il y a quand même des matières qui vous semblent plus importantes que les autres?
Ah, bien sûr, les matières fondamentales sont les mathématiques et les langues anciennes.
Oui.
Essentiellement.
Les langues anciennes, pourquoi?
Les langues anciennes, bien sûr, parce qu'elles sont gratuites. Parce que justement, ça ne sert à rien de les apprendre. C'est en cela qu'elles ont de la valeur. De la même façon que de faire du sport, ça ne sert à rien. Et si vous faites un exercice physique utile, si vous transportez des charges, vous ne cultiverez absolument pas votre musculature. Il faut que les gestes que vous faites soient inutiles. Il faut donc que votre esprit travaille inutilement dans l'immédiat, de façon à être prêt à faire des choses utiles après. Je pense qu'il est absolument inutile d'apprendre encore une fois un métier Et je pense par exemple que l'enseignement des langues, hein, c'est un point de vue très personnel, où on devrait faire beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard. Mais ça ne sert à pas grand-chose d'apprendre une langue, si vous voulez, à 15, 16, 17 ans. Bon, parce qu'il n'en reste rien. Moi, j'ai fait de l'anglais pendant 7, 8, 9, 10, 11 ans. Et je suis, si, je sais lire, je lis de l'anglais. Je suis incapable de parler. Alors, quand vous pensez à ces nombres d'heures perdues, il aurait bien mieux valu qu'un jour, on décide, bon, en 6e ou en 5e, alors, au lieu de faire 3 ans d'anglais, on en aurait fait 15. Et puis, on aurait vraiment atteint un niveau tel que ça reste. C'est-à-dire qu'on aurait eu une authentique culture, soit à 10-11 ans, hein, même plus tôt. Je pense qu'on devrait apprendre les langues à la maternelle.
Hein. Oui, chez nous aussi.
Très, très tôt. On devrait, mais en France, on ne le fait pas. Ou bien alors, carrément plus tard. Pourquoi pas? Vous savez, quand... J'ai été déporté en Allemagne en 1944. Vous vous rappelez sans doute que le pays était occupé par les Allemands en 1944. Il s'est trouvé que j'ai eu une petite activité résistante, puis un bon matin, la Gestapo est venue me prendre, emprisonné à Fresnes et déporté en Allemagne. Je ne savais pas un mot d'allemand. Et puis les circonstances ont fait que j'ai pu apprendre l'allemand sur place. En particulier, j'ai été pendant plusieurs mois complètement coupé de tout autre français et je n'avais pas d'autre moyen d'expression que l'allemand. Eh bien, j'ai appris l'allemand très très vite et ma foi assez bien, au point que je parlais l'allemand, mais vraiment très très couramment en 1945, je parlais l'allemand aussi couramment que le français à cette époque-là. Bon, ben, si on a besoin d'apprendre une langue, lorsqu'on a une bonne préparation intellectuelle générale, en particulier si on a fait des langues anciennes, c'est-à-dire qu'on a habitué son esprit à une gymnastique des mots, ça prend très 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 vite. Je suis persuadé qu'avec des cours bien faits, je suis persuadé qu'en 3 mois, vous apprenez à parler quelqu'un tout à fait couramment.
Est-ce que tous les enfants, selon vous, devraient faire des études de cette sorte, de langues anciennes? C'est bon pour tous les enfants?
Je pense que oui. Mm-hmm. Je pense que oui. Et bien sûr, c'est une gymnastique. De la même façon que tous les enfants devraient faire de la gymnastique suédoise. Et on ne fait pas telle gymnastique pour tel type d'enfant. Il y en a qui sont plus grands, plus gros, plus lourds, plus tordus, mais peu importe. C'est assez complet comme formation. Alors, exactement la même chose.
La réforme actuelle, on a supprimé l'étude du latin en 6e et 5e, je crois, et on ne débute qu'en 4e.
Oui.
Alors vous trouvez que cette...
Je pense que ce n'est pas bon.
Non.
Je pense que ce n'est pas bon. Mm-hmm. Je pense que on ferait mieux, si vous voulez, de faire plus à fond les matières fondamentales. Hein. On devrait faire des mathématiques plus tôt, plus complètement, hein, des langues anciennes. Des langues anciennes, enfin, si vous voulez, ou des langues qui ne servent à rien, si vous voulez, le chinois, le japonais, le javanais, le malais, mais surtout pas de l'anglais ni de l'allemand. Parce que ça a une utilité immédiate. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Il faut que, par définition, quand on forme un esprit, on lui fasse faire des choses qui ne servent à rien dans l'immédiat. Il faut que ça soit un acte gratuit. S'il y a un côté pragmatique chez un jeune, c'est fini, vous n'en ferez rien.
Ah oui.
Voilà mon point de vue.
Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école, pensez-vous?
Je pense que ça dépend énormément de l'environnement, c'est-à-dire d'une part du milieu familial, d'autre part bien sûr des professeurs qui sont chargés de les enseigner. Je pense que tous les individus ont les mêmes aptitudes intellectuelles, a priori. Encore faut-il savoir les développer et leur faire comprendre que cet effort intellectuel qu'on leur demande, c'est un jeu. Hein. Il est aussi distrayant de faire travailler son esprit qu'il est distrayant de faire travailler ses muscles. Je m'excuse de faire toujours cette comparaison avec le sport, mais ça me paraît fondamental. Et je crois que le drame des enfants qui ne réussissent pas, c'est parce qu'on n'a pas su leur montrer le caractère distrayant, au sens propre du terme, de l'activité intellectuelle. On en a fait pour eux une obligation et une préparation à l'exercice d'un métier pour gagner leur vie. C'est ce qu'il ne faut pas dire. Et je pense que, j'ai d'ailleurs quand même quelques exemples, enfin, d'enfants qui ne réussissaient pas, qui un beau jour réussissent, pourquoi? Ben, c'est le jour où ils ont eu la chance de tomber sur quelqu'un qui leur a dit ça. La plupart du temps, les professeurs. Je pense que ce qui est dramatique, c'est que de nombreux professeurs ne sont pas des pédagogues, et eux-mêmes ne sont pas persuadés de cela. Ça ne peut pas marcher. changer. Oui. Je pense d'ailleurs que c'est exactement la même chose chez les adultes, lorsqu'il s'agit de les faire travailler. Mon métier, au fond, c'est de faire travailler des gens. Enfin, je travaille moi-même, mais avant tout, de faire travailler des entrepreneurs, de faire travailler des contremaîtres, de faire travailler des ouvriers. Eh bien, je m'aperçois qu'on peut toujours obtenir quelque chose de quelqu'un si on lui en a montré l'aspect, si vous voulez, intellectuel et distrayant. Il faut surtout le dégager du profit. À partir du moment où vous dites à quelqu'un « tu vas faire ça, tu vas gagner de l'argent », c'est très mauvais. Tu vas faire ça parce que c'est intéressant. Souvent, il le fait. Et je vous assure que j'ai toujours obtenu de très bons résultats avec les gens avec lesquels j'ai travaillé en prenant cette attitude-là.
Jusqu'à quel âge pensez-vous qu'il faudrait qu'un enfant poursuive ses études ?
On ne doit jamais s'arrêter. Oui. On ne doit jamais s'arrêter. Enfin, disons que la formation de base doit s'arrêter très naturellement au moment où l'enfant a envie de se marier. Et j'admets que l'âge normal de se marier étant de 21, 22, 23 ans, il faut qu'à peu près à cette époque-là, si vous voulez, il ait acquis suffisamment de bagages intellectuels pour pouvoir, alors, exercer une activité productrice. Mais il faudrait absolument que son activité intellectuelle gratuite continue. Absolument. Encore une fois, de la même façon que c'est comme si vous me disiez à quel âge faut-il s'arrêter de faire du sport. Il n'y a pas d'âge pour s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter. Eh bien, intellectuellement, c'est pareil. Il ne faut jamais s'arrêter. Donc, je crois, mais fondamentalement, la formation continue.
J'aimerais maintenant aborder un sujet très différent. Vous savez, nous aurions dû venir au mois de mai l'an dernier.
Oui.
Pour faire cette étude que nous faisons. Et vous comprenez que nous n'avons pas pu venir à ce moment-là.
Oui.
Pour cause des événements.
Oui.
Alors, on aimerait bien savoir quelles étaient vos impressions de ce qui s'est passé à ce moment-là.
Très volontiers. Très volontiers parce que c'est une période qui m'a beaucoup touché et qui se prolonge d'ailleurs encore aujourd'hui. Les événements de mai ne sont pas terminés de loin, contrairement aux apparences. Mes impressions de l'époque, pour moi, j'ai considéré que les événements de mai étaient d'heureux événements pour la France. Parce que, pour la première fois, il y a eu une certaine prise de conscience collective que, après tout, les choses n'allaient peut-être pas si bien qu'elles en avaient l'air ou qu'on avait l'air de nous le dire. Je parle évidemment très ouvertement. Hein. Je pense que cet enregistrement restera confidentiel.
Oui, bien sûr. Oui, je vous assure, c'est tout à fait anonyme et ça ne sert qu'à la recherche.
C'est cela.
Oui.
J'ai vu, moi, dans les événements de mai, une prise de conscience, encore une fois, de l'ensemble de la population en face d'un système purement artificiel. Si vous voulez, la France de la Ve République, eh bien, c'est avant tout un décor, c'est une façade, et au fond, par derrière, il n'y a pas grand-chose de très, 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 très sérieux. Et ben, ma foi, il a suffi que quelques étudiants à Nanterre manifestent pour que ce décor s'effondre, hein, comme un château de cartes. Et pour moi, j'ai considéré que c'était le point de départ d'une résurrection de la France. Je dois dire que le décor a été remonté à la hâte, à un grand coup de marteau, avec du sparadrap ou du scotch, et que ce décor, ma foi, semble reconstruit, mais je ne pense pas. Je pense que les événements de mai se prolongent et que tôt ou tard, on sera bien obligé de constater que le gaullisme est devenu une simple façade. Et ce qui me permet de dire ça, c'est que finalement, à cette époque-là, beaucoup de gens le pensaient aussi et n'osaient peut-être pas l'exprimer ouvertement. Mais il est tout de même assez curieux de constater qu'à ce moment-là, dans presque tous les milieux, tous les Français ont trouvé que c'était tout à fait naturel, que c'était normal, ça devait se produire. Ça devait se produire, c'est évident. Dans toutes les branches de l'activité économique du pays, il a été fait toute une série de réformes successives, hâtives, non raisonnées, non efficaces, Et finalement, l'ensemble du pays était mécontent. La meilleure preuve, c'est que la machine s'est arrêtée pendant 3 semaines, bloquée par les grèves. Et ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que De Gaulle a repris le pouvoir en agitant le drapeau de... Comment dirais-je ? En donnant peur aux Français, en leur disant, écoutez, c'est très gentil, mais vous allez voir, les maoïstes vont prendre le pouvoir, on va prendre vos maisons, on va tout détruire, etc. Enfin, les Français ont eu peur, comme les Français sont même installés dans une vie très bourgeoise, les Français sont devenus très embourgeoisés. Tous les Français ont leur voiture, ils ont des appartements, ils sont pas trop mal logés, enfin, tout va bien, après tout. Puis comme on leur avait dit, tout allait bien, ils étaient à peu près persuadés que tout allait bien. Ils ont dit, mais mince, alors si les communistes prennent le pouvoir, ou les maoïstes, on va tout perdre. Et ils ont voté De Gaulle. Mais fondamentalement, le Français ne se fait plus d'illusions sur le régime. Enfin, voilà mon opinion. Et je pense être pas trop mal informé. Mm-hmm. Enfin, là, vous me demandez des questions très directes. Je pense, vous voyez, où le référendum va avoir lieu dans une dizaine de jours. Je crains que le vote ne soit encore oui, mais je suis persuadé que il y aura, si vous voulez, 70 à 80% de non masculins et 80% de oui féminins.
Ah oui, comment expliquez-vous cela ?
Oh, c'est très facile. C'est très facile. La plupart des femmes, bien qu'en France il y ait pas mal de femmes qui travaillent, mais ça représente quand même une minorité. Donc la plupart des femmes vivent au foyer et n'ont pas d'autre information que la presse, la radio et la télévision. Bon. Elles ne sont pas à même de constater les imperfections du système. Si personnellement j'estime que les méthodes actuelles sont mauvaises, c'est parce que professionnellement j'ai constaté qu'elles étaient mauvaises. Si vous voulez, le développement économique ne se fait pas à la cadence qui pourrait être, tout simplement parce que les procédures sont trop complexes, parce que mal élaborées, mal réfléchies et finalement inadaptables. Vous avez pu voir par exemple qu'en un an de temps, on a changé 4 fois de taux de TVA. Bon, ben, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, c'est pas pratique pour deux sous. Résultat, il y a énormément de pertes de temps et c'est la raison pour laquelle notre pays, qui en principe n'est pas paresseux, parce qu'on travaille, je pense, beaucoup en France, tout au moins en heures de travail.
Oui. Hein?
Je pense plus d'ailleurs que dans les autres pays d'Europe, enfin plus qu'en Allemagne, plus qu'en Angleterre. Bon, bah, comme on est, a priori, on ne doit pas être plus bête qu'eux, comment se fait-il que nos résultats sont moins bons? Parce que c'est vrai, nos résultats sont moins bons. Bah, parce que nous perdons beaucoup de temps, parce que nous ne sommes pas efficaces. Nous ne sommes pas efficaces pourquoi? Bah, parce que nous avons une réglementation trop complexe. Or, les femmes, ça, ne s'en aperçoivent pas. Alors elles votent pour qui ? Ben, elles votent comme si elles votaient pour Johnny Hallyday, ou pour, elles votent pour quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui incarne la libération, qui incarne une certaine anglophobie, ça plaît en France, une certaine américanophobie aussi, hein, et qui fréquente un peu les Russes, parce qu'il y a tout de même en France une certaine sympathie de fond pour le peuple soviétique, parce qu'on n'oublie pas que le peuple soviétique a tout de même été l'artisan fondamental de la chute de l'hitlérisme et du nazisme, hein, alors qu'il fraye un peu avec les Russes, qui dit zut aux Américains, qui éventuellement enquiquine les Anglais, ça plaît, mais sentimentalement. Donc De Gaulle est élu par les gens sentimentaux. Or les sentimentaux, par définition, sont les femmes. Qui ne travaille pas. Voilà, ça, pour moi, c'est l'explication très simple. On n'a pas d'autre explication. Quand vous faites un inventaire des gens, vous leur demandez comment allez-vous voter, si vous faites une statistique, vous apercevez qu'à chaque fois, il y a une très forte majorité qui est opposée, qui est contre. Et quand vous consultez le résultat des élections, vous apercevez que bah, finalement, il y a une majorité de oui. Remarquez qu'elle est assez faible. Aux dernières élections, il y a quand même eu seulement 51% des voix exprimées.
Diminution.
Ah oui, très régulière.
Régulière, oui.
Très régulière.
Oui. Et puis il y a aussi cette question de confiance qui a été posée, cette fois aussi, n'est-ce pas? Il s'agit de...
Ah bah oui, mais ça c'est tout ou rien. Hein.
Du président ou du chaos.
Oui, mais alors enfin... Il faut reconnaître aussi que en 58, la France était dans une situation politique assez peu brillante. Alors, il faut reconnaître que les événements d'Algérie avaient entamé considérablement la solidité du pouvoir républicain, et changement de ministère incessant, un grand désarroi dans les esprits. Et il faut reconnaître que le terrain était particulièrement propice à l'accueil chaleureux d'un grand homme qui dit « je remets de l'ordre ». C'est évident.
Un deuxième ou troisième ou quatrième Napoléon.
Non, Jeanne d'Arc. Ah non, pas Napoléon. Non, Napoléon, c'est autre chose. Napoléon, en fait, c'était un conquérant. Non, lorsque Napoléon a pris le pouvoir, si je me rappelle un petit peu mon histoire de France, la France n'était pas spécialement dans le chaos. Non. Disons que Napoléon a su utiliser l'ardeur combative des républicains révolutionnaires pour conquérir l'Europe, sauf l'Angleterre. Non, je pense que De Gaulle ne doit pas être comparé à Napoléon, mais doit être comparé à Jeanne d'Arc, si on veut. Enfin, dans certaines mesures, si vous voulez, c'est le sauveur. En fait, c'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que c'est l'impression qu'on en a directement, mais avec un peu de réflexion, et surtout au fil des années, on s'aperçoit que finalement, c'est pas tout à fait ça. Puisqu'enfin, il y avait un domaine dans lequel on était très sûr de nous, puisque, soi-disant, qu'on avait réussi à avoir maintenant un équilibre financier remarquable, on avait de l'or en veux-tu, en voilà, on était prêt à emprunter aux Américains. Et puis, il a suffi de pas grand-chose. Parce qu'enfin, 3 semaines de grève, bien sûr, ça coûte cher, mais c'est pas quand même très dramatique, puisque de toute façon, les Français prennent 4 à 5 semaines de vacances. Bon, ça fait jamais que 3 semaines de plus. Donc, si on fait le pourcentage sur l'activité économique totale de l'année, c'est pas tellement important. Hein? Bon, d'autant plus que tout le monde ne s'est pas arrêté. Moi-même, je n'ai pas fait la grève, évidemment. Hein? En tant que profession privée, j'ai bien sûr continué à travailler. J'ai jamais si tant travaillé qu'à cette époque-là. Eh bien, il a suffi de ces 3 semaines de grève pour que, boum, le franc s'effondre, hein, les réserves en or disparaissent, ce qui prouve que ce n'était pas une trésorerie tellement solide.
D'une part, il y a De Gaulle et l'UDR, parti majoritaire assez grand, mais d'autre part, il y a tous les petits groupements politiques.
Oui.
En France.
Oui.
Comment est-ce qu'on explique en fait, du point de vue anglais, on trouve toujours que enfin, l'effritement des partis politiques en France, c'est quelque chose de difficile à comprendre.
Je pense que lorsqu'on connaît la mentalité française, ça n'est pas tellement étonnant. Si vous voulez, en France, non seulement vous avez toujours eu une dizaine, une quinzaine de partis dits organisés, mais à l'intérieur même des partis, vous avez encore toute une série de groupes représentant différentes tendances. Et ce qui caractérise les Français, tout au moins depuis un certain nombre de générations, c'est de ne jamais se mettre d'accord, si vous voulez, sur un sujet déterminé. Chacun reste dans ses positions. Enfin, le Français est par définition individualiste, ça c'est évident. Alors, parce que l'UDR, c'est pareil, l'UDR, en fait, on ne peut pas appeler ça un authentique parti. En fait, se recouvre sous la bannière de l'UDR, disons, des gens qui sont opposés, hein, qui sont opposés aux autres partis. Maintenant, les partis représentent une fraction très faible de la population. Je veux dire par là que il y a de nombreux partis, mais il y a énormément de Français qui ne sont affiliés à aucun parti. Oui. En fait, ce qu'on n'a pas du tout en France, c'est cet esprit, je crois, qui est très anglais ou américain. Enfin, on est à droite ou à gauche, quoi. On choisit oui ou non. Non, en France, jusqu'alors, on n'a jamais été ni oui ni non. On a chacun son petit point de vue à soi. Hein.
Pourtant, il y a droite et gauche aussi.
Ah ben, on
a des appellations droite et gauche.
Bien sûr.
Comment est-ce qu'on... Ah ben, défini. Quelles sont les différences entre droite et gauche?
Ah ben, à l'origine, vous savez très bien, c'est tout simplement parce que c'est les gens qui siégeaient à droite et puis ceux qui siégeaient à gauche dans l'Assemblée.
Oui.
Bon. Alors, définition de la droite et la gauche, ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Enfin, en ce qui me concerne, si on me demandait de donner une définition, je dirais que par définition, l'homme de gauche, c'est celui qui admet une certaine évolution en fonction du groupe, par définition. Hein? En fonction du groupe. C'est-à-dire que c'est la personne qui pense à travers le groupe. Par opposition fondamentale à l'individualiste, qui, l'homme de droite, si vous voulez, ne pense pas le groupe et surtout l'ensemble du groupe. Quand je dis groupe, si vous voulez, c'est pas seulement à l'échelle de la ville ou à l'échelle du département ou à l'échelle de la région ou à l'échelle de la nation, même ceux qui pensent plus loin, si vous voulez. Dans une politique de gauche, par définition, elle doit penser, évidemment en filigrane, mais à l'humanité tout entière. Pour moi, c'est ça, quelqu'un de gauche. À partir du moment où quelqu'un limite sa pensée politique à un groupe fini, hein, déterminé, ce n'est plus un homme de gauche. Pas fini. C'est donc un homme de droite.
Oui.
Je veux dire par là, par exemple, que le type même des gens de gauche, si vous voulez, par définition, l'homme de gauche est internationaliste. Ça ne veut pas dire qu'il va effacer toutes les frontières et vouloir mettre sous le joug d'un seul pouvoir toute la planète. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'il va penser aux répercussions de sa politique sur les autres, pour lesquels, a priori, il a une certaine sympathie. A priori. Sinon, c'est pas un homme de gauche.
Et est-ce que droite et gauche, enfin le choix entre droite et gauche, se fait selon la classe aussi ?
En France, oui, tout de même, je pense que oui. Enfin, si vous voulez, actuellement, c'est assez confus. Hein. Il est bien difficile de dire, par exemple, que les communistes, les socialistes, c'est la gauche, et l'UDR, c'est la droite. C'est pas vrai. C'est plus compliqué que ça. Donc, il faut se reporter un petit peu en arrière. Il faut se reporter à il y a une dizaine d'années, assez manifestement. La majorité des votants de gauche, ce qui ne veut pas dire que ce soit des hommes de gauche. Parce qu'on peut très bien voter pour un parti sans en fond en avoir bien compris l'essence. C'est ce qui se passe d'ailleurs chez nous. Par exemple, le Parti communiste qui a toujours représenté 25% des voix, vous avez pas, il n'y a pas 1% des gens qui sont communistes authentiques. Ils ne savent pas ce que c'est. C'était avant tout le parti des mécontents, c'était des gens de l'opposition qui avaient été rejetés dans l'opposition, bah, tout simplement parce que leurs slogans n'étaient pas des slogans français, c'était des slogans soviétiques. Donc par définition, ils se mettaient en marge de la société et ils drainaient de ce fait tous les mécontents. Donc finalement, de voter communiste ne signifiait pas du tout d'être un homme de gauche authentique. Donc vous disiez, alors les classes sociales, et bien sûr... De ce point de vue, vote à gauche, d'une façon générale, les classes sociales les moins aisées. C'est tout naturel. Parce que les classes sociales les moins aisées sont la plupart du temps plus mécontentes que les classes aisées. D'autant plus que maintenant, les classes les moins aisées le savent qu'elles sont moins aisées. C'est ça qui est très important. À savoir que l'information maintenant gagne absolument la totalité de la population, alors qu'il y a seulement une cinquantaine d'années, finalement, il y a des gens qui vivaient un peu en dehors de ce qui se passait autour d'eux. Alors, comme ils ne savaient pas ce qui se passait autour d'eux, mais ils ne se considéraient pas comme malheureux. C'est le problème, par exemple, de la campagne. À la campagne, je connais évidemment assez bien le milieu rural, mais seulement il y a 20 ans, les paysans ne se considéraient pas du tout comme malheureux, parce qu'au fond, ils ne savaient pas très bien ce qui se passait ailleurs. Ils allaient à la ville une fois de temps en temps en voiture, ils avaient vaguement la radio, mais depuis qu'ils ont la télévision, hein, ils ont conçu alors un véritable complexe, d'où le fait que la campagne ne vote plus à droite, ne vote plus de Gaulle. Mm-hmm. Parce qu'elle a maintenant des éléments de comparaison.
Oui. Est-ce qu'une classe bourgeoise existe toujours en France ? Vous avez parlé de l'embourgeoisement de la...
Oui.
Vous voyez ? Est-ce que la classe bourgeoise...
Alors, j'ai dit l'embourgeoisement du pays, oui. du pays, de l'ensemble du pays. Alors, attention, je fais une différence entre le qualificatif de bourgeois et la classe bourgeoise. Je dis qu'on est bourgeois à partir du moment où on ne cherche pas à évoluer. Pour moi, c'est ça. D'ailleurs, ça correspond à une définition exacte étymologique. On opposait le bourgeois au campagnard, le bourgeois étant celui qui habite le bourg. Or, celui qui habite le bourg, c'est celui qui a fini sa carrière pour un rural. C'est le type même des Orléanais d'il y a 50 ans. Le paysan a fait fortune, il a acheté une maison, il s'installe à Orléans, bon ben c'est fini, il est en retraite. Donc si vous voulez, pour moi, le bourgeois, c'est l'équivalent du retraité. C'est celui qui ne cherche pas à faire mieux, à faire plus. Ça c'est donc le bourgeois. Alors la classe bourgeoise, nous dirons que c'est l'ensemble des gens qui ont cette attitude. Mais je trouve moi personnellement que des ouvriers sont beaucoup plus embourgeoisés que telle profession libérale, tel avocat, tel dentiste, tel entrepreneur qui va développer son affaire, et celui-là ne sera absolument pas un bourgeois, dans ma définition, et je ne crois pas me tromper. Ce qui caractérise la classe bourgeoise, c'est de vivre sur l'acquis. Alors, de ce fait, existe-t-il en France une classe bourgeoise? Non, pas à ce sens-là.
Ah oui.
Disons que il y a beaucoup de gens embourgeoisés, c'est sûr. Mais je pense que d'ailleurs c'est très répandu en Europe, ça.
Mmh. Oui. Oui. Alors on commence. Et cette fois-ci, des questions sur la langue ou des questions qui se rapportent à la langue ou l'utilisation de la langue. Est-ce qu'il y a, suivez vous, un dictionnaire?
Bien sûr.
Oui. Plusieurs, je suppose.
Oui, il y en a deux. Il y a un dictionnaire français, Larousse, et puis j'ai un dictionnaire technique franco-anglais.
Ah oui. Et le Larousse en trois volumes ou en
volume? Alors, au bureau, à mon bureau, j'ai un petit Larousse. Oui. Mais j'ai chez moi un dictionnaire en 10 volumes.
En 10 volumes. Oui, en 10 volumes. Oui.
Je ne parle évidemment pas des dictionnaires de langue ancienne que nous avons évidemment à la maison. Enfin, oui. Ça, c'est autre chose.
Oui. Et depuis quand avez-vous le Larousse en 10 volumes?
Depuis quand nous avons la hausse en 10 volumes? Il n'y a pas très longtemps, justement. Nous ne l'avons que depuis cette année.
Ah oui?
Mais je dois dire que j'avais à ma disposition le Larousse en 12 volumes de mon père.
Ah oui, vous avez hérité.
C'est ça.
Et vous l'avez acheté...
C'est ça, j'ai acheté la nouvelle édition.
Oui, ah oui. Qui est-ce qui s'en sert le plus souvent, croyez?
Ben, nous en servons tous les quatre de la même façon, puisque je considère que nous sommes tous les quatre étudiants, en fait.
Oui, oui. Est-ce que vous avez occasion de regarder le dictionnaire tous les jours ou...
Alors, attention, à la maison, ou certainement, oui. Certainement une fois par jour.
Oui. Et vous l'avez regardé pour la dernière fois, alors, hier?
Oh, sûrement, oui.
Quel genre de choses est-ce que vous y cherchez le plus souvent? Des orthographes ou sens ou des détails historiques, géographiques?
Le plus souvent, orthographe, non. En principe, nous considérons que nous avons une bonne orthographe, nous n'avons pas besoin d'y recourir. Je parle pour mon foyer, je ne parle pas du bureau.
Oui, oui.
Mais nous recherchons souvent le sens exact des mots, l'étymologie. Vérifier que nous prenons bien le mot dans le sens exact dans lequel on doit l'employer. Et bien sûr aussi des renseignements techniques, scientifiques. Peu d'histoire. Nous sommes, dans la famille, nous ne sommes pas du tout intéressés par l'histoire. Nous ne sommes pas historiens.
Est-ce que vous possédez d'autres livres du genre l'art de parler, l'art d'écrire ou les difficultés de la langue française?
Oui. Oui. Le titre m'échappe actuellement, mais enfin j'ai trouvé grand plaisir à lire il y a quelques années un livre sur les difficultés de la langue française, sur les accords de participe passé, sur les accords de verbe. Comment ça? Je ne me souviens plus du titre.
Je crois qu'il y en a un qui s'appelle justement « Les difficultés de la langue française », mais je ne m'appelle pas du...
Non, ce n'est pas ce titre-là, c'est un titre différent, enfin, peu importe. Encore que, si, c'est peut-être... C'est peut-être un livre qui vous intéresserait d'avoir. Il faudrait que ma femme s'en souviendrait.
Oui, c'est peut-être du genre le bon usage.
Non pas. Non pas. C'est un livre qui a été écrit par un grammairien. Et si vous voulez, par exemple, qui montre les nuances entre les différentes formes d'expression.
Ah oui. Hein? Ah oui.
Ce n'est pas un manuel, si vous voulez. Non. C'est plus un essai. Et c'est simplement pour montrer que la langue française est très, très subtile.
Oui.
Enfin, c'est ça.
Oui.
Plus une réflexion sur les difficultés de la langue française qu'un manuel pour éviter ces difficultés.
Oui.
C'est pas un document de travail, si vous voulez.
Est-ce que vous faites des mots croisés?
Oui, bien sûr.
Oui. Lesquels?
Dans quel journal?
Oui.
N'importe lequel, et de préférence dans le Canard enchaîné. Vous connaissez le Canard enchaîné?
Oui. Et toutes les semaines ou...
Non. Non, je ne fais les mots croisés que lorsque je reviens de Paris par le train. Je vais à Paris de temps en temps, en voiture, et quelquefois par le train, et je n'en fais que lorsque je reviens par le train. Parce que je n'ai pas assez de loisirs pour faire les mots croisés.
Oui.
J'aime beaucoup faire les mots croisés.
Oui. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi cela vous plaît?
Je pense parce que c'est un exercice intellectuel gratuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Étant donné que ce qui m'amuse le plus, si vous voulez, ce n'est pas de trouver des mots extraordinaires, plutôt que de trouver une formulation astucieuse d'un mot. C'est plus dans le jeu de mots que je trouve mon plaisir que de trouver des mots peu courants.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez du franglais?
Je pense que c'est... C'est pas très grave, si vous voulez. Ça n'est pas très grave. C'est un langage commode, pratique. Hein? De la même façon qu'un langage technique est pratique, est artificiel. Mais je pense qu'il serait dommage de ne pratiquer que le franglais. Il est fondamental, si vous voulez, de connaître parfaitement une langue, de la même façon qu'il est très souhaitable de connaître parfaitement un sport ou un art, le piano, ou autre chose.
Oui.
Je considère que la langue est un art en soi.
Je peux vous demander un exemple. Est-ce que vous diriez pipeline ou oléoduc, gazoduc?
Je pense que pipeline ou oléoduc ou gazoduc, c'est aussi barbare. Mm-hmm. Hein? Ça n'a aucune importance de dire pipeline que dire oléoduc.
Le nouvel hovercraft en Angleterre.
Oui.
Est-ce qu'on utilise le mot hovercraft?
Ah oui, on dit hovercraft.
Hovercraft. Mais il y a une traduction, je crois, n'est-ce pas?
Oui, on doit dire... pas hydroglisseur, mais... Je ne sais pas. Enfin, moi, je ne pense qu'à hovercraft.
Hovercraft, oui.
Hovercraft.
Oui. Est-ce qu'il y a des façons... Est-ce qu'il y a des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Je pense que plus maintenant, j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour les langues, les accents. Je peux même vous dire qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais capable, en parlant avec un campagnard du Loiret, de vous définir s'il était de telle ou telle commune.
Ah oui.
Je pouvais discerner des accents à quelques 10 km près. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que tout ceci disparaît très rapidement, et je pense que tout le monde parle à peu près de la même façon, et en tout cas les classes sociales n'y sont plus pour grand chose. Je pense que c'était vrai, si vous voulez, il y a 20 ans, qu'on ne parlait pas, les enfants de bourgeois, dirons-nous, pour simplifier, enfin disons des classes aisées, elles ne s'exprimaient pas de la même façon que les enfants d'ouvriers, et surtout pas de la même façon que les enfants de paysans. Mais je pense qu'en 1969, ça n'existe plus. Tout le monde parle de la même façon. Je pense que, malheureusement d'ailleurs, parce que certains accents étaient savoureux, tout cela disparaît complètement.
Oui.
Je pense qu'il n'y a plus de différence.
Oui. Est-ce que, selon vous, les gens parlent de mieux en mieux, ou de plus en plus mal, ou sans changement, aujourd'hui?
Je pense que les gens connaissent de moins en moins leur langue. Je me permets de dire que je ne dis pas qu'ils parlent plus mal, mais ils ne parlent plus, ils ne parlent de moins en moins le français, en ce sens que D'une façon générale, on ne fait plus les liaisons, on ne fait plus les accords de verbes, on n'utilise plus du tout les imparfaits du subjonctif, et de ce fait, on ne fait plus les accords de temps. Hein. Le langage s'est simplifié et, de la même façon, a perdu beaucoup de ses nuances et de sa précision. Je pense que l'on parle actuellement d'une façon beaucoup moins précise qu'il y a seulement qu'il y a 20 ans. Mm-hmm. C'est certain.
Est-ce qu'il y a une profession qui vous semble parler mieux le français que toute autre profession, d'après les gens que vous avez entendu parler?
Je pense que d'une façon générale, les membres des professions libérales sont amenés, en dehors des professions traditionnelles, si vous voulez, de l'enseignement, bien sûr. Mm-hmm. Et je pense que dans le monde du travail productif, ce sont plutôt les membres des professions libérales qui s'expriment dans une langue plus riche, par exemple, que dans le monde des ingénieurs, mm-hmm. que dans le monde des... disons d'une façon générale des ingénieurs ou des ouvriers ou des paysans, c'est évident. Je pense que les gens qui parlent le mieux le français actuellement sont encore les médecins, les dentistes, des avocats, des huissiers, des gens dont le métier justement est de s'exprimer.
Est-ce qu'il y a en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Oui, c'est l'Académie française.
Oui. Est-ce que vous croyez que c'est utile, le travail?
Oui, sûrement. Sûrement.
Oui.
Sûrement.
Est-ce que vous croyez qu'il faudrait obliger les journalistes et les speakers de la télévision, de la radio aussi, à employer un bon français?
Très certainement.
Oui.
Bien sûr.
Oui, pourquoi?
Dans la mesure où je considère une langue comme un art, comme une technique consommée, c'est comme si vous disiez, est-ce que vous admettez que le champion du monde de tennis joue mal?
Oui. Est-ce que la langue française est aussi bien enseignée, ou mieux enseignée, ou moins bien enseignée que du temps où vous étiez vous-même à l'école?
Ça m'est bien difficile de répondre, puisque je ne suis plus sur les bancs de l'école. Enfin, mes enfants y sont. Je pense qu'on attache moins d'importance à la langue française qu'il y a 20 ans, dans la mesure, si vous voulez, où j'ai l'impression que on s'intéresse davantage au fond, à la littérature. Je m'aperçois par exemple que mes enfants ont été amenés à lire des textes beaucoup plus tôt que de notre temps. Enfin, nous ne lisions pas à 10-11 ans l'équivalent de ce que les enfants lisent aujourd'hui. Et alors, de ce fait, c'est au détriment de la langue française, sûrement. Sûrement. Mais enfin... Ce que je dis en tout cas, c'est que, en ce qui concerne les langues anciennes, eh bien... il y a 20 ans, plus de la moitié des élèves faisaient des langues anciennes, alors que maintenant, ça représente 1%. Or, manifestement, la pratique d'une langue, c'est la base, c'est une langue ancienne, oui. C'est évident.
Oui.
Enfin, si vous voulez, pour résumer, je considère que le français doit être considéré comme une langue ancienne et étudié et pratiqué comme tel, ce qui n'empêche pas que sur le plan technique, on utilise le franglais ou même l'anglais, pourquoi pas, si c'est plus rapide de parler en anglais. D'ailleurs, en fait, on parle en quoi? On parle en langage binaire maintenant.
Oui.
En fait, on parle avec un ordinateur. Je pourrais vous montrer des plans ici qui ont été dessinés par des ordinateurs. On parle quoi actuellement? On parle le Fortran. On parle le PAL. On parle. Hein?
Oui.
Mais ça, c'est un langage véhicule, mais c'est pas un art.
Non. Dans quelle matière est-ce que vous étiez le plus fort à l'école?
Ah, bonne ouais, question. Eh bien, je pense que j'étais assez équilibré, si vous voulez, en ce sens que. J'étais aussi... Enfin, mes résultats étaient équivalents en lettres qu'en sciences. J'avais beaucoup de goût pour la philosophie. J'aimais beaucoup la philosophie. Enfin, disons que finalement, c'est en physique que j'étais le meilleur, sûrement. Ce qui correspond d'ailleurs à mon activité.
Oui. Qu'est-ce que vous portez généralement sur vous pour écrire?
Eh bien, je porte, vous voyez, beaucoup de choses.
Ah oui.
J'ai un stylo à plume. Hein? Traditionnel, et j'ai aussi stylo à billes rouge, stylo à billes bleu, crayon tendre et crayon dur. Mais ça, c'est de la déformation professionnelle,
oui.
Hein, étant entendu que suivant le support sur lequel vous écrivez, normalement la dureté de la mine doit être en correspondance avec la dureté du papier. Donc j'ai donc deux duretés de mine, et j'ai naturellement un stylo bille bleu et un stylo bille rouge pour faire mes croquis, mais pour écrire, pour faire une lettre, j'écris toujours avec un stylo à plume.
Ah oui.
Toujours.
Ah oui.
C'est ce qu'il y a de plus doux, ce qu'il y a de plus confortable.
Ah oui. Et le stylo bille, alors, sert à prendre des notes ou à faire des brouillons ou...
C'est ça. Lorsqu'il y a le risque de laisser tomber, n'oubliez pas que je suis aussi très souvent dehors, dans les champs. D'ailleurs, mon teint bronzé vient de là. Il y a le ski, mais il y a aussi le fait que je suis toujours dehors. Il est bien évident qu'un stylo à plume, si vous le laissez tomber, il est perdu. Donc celui-là, je ne m'en sers qu'à l'abri. Mm-hmm. Et puis enfin, pour faire des doubles, stylo à plume.
Oui. Oui. Est-ce qu'il est important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Je pense que oui, très certainement, oui. Tout simplement parce qu'on peut la lire. Il n'y a rien de plus épouvantable que de lire un document, enfin que de ne pas pouvoir lire quelque chose qui a été écrit par quelqu'un. Bah, de la même façon qu'il me paraît épouvantable de ne pas pouvoir entendre quelqu'un. Si quelqu'un ne sait pas parler, s'il bégaye, c'est épouvantable, c'est très désagréable.
Oui.
Et l'écriture, c'est la même chose.
Oui. Et l'orthographe, c'est la même chose?
L'orthographe, c'est autre chose. L'orthographe, si vous voulez, c'est simplement le souci de la précision, encore une fois, inutile. Ça ne sert à rien, l'orthographe.
Mm-hmm.
Et c'est en cela que c'est précieux.
Mm-hmm.
De la même façon qu'un bijou. C'est rare.
Ah oui, je comprends, oui. Est-ce que vous seriez donc favorable à une réforme de l'orthographe?
Absolument pas.
Non.
Absolument pas.
Non. Est-ce que vous voudriez me dire qui de vous ou de votre femme écrit habituellement à vos amis communs?
Ben, nous avons l'habitude de partager notre travail. Je pense que nous écrivons autant l'un que l'autre. J'écris peut-être davantage qu'elle à nos amis tout à fait communs.
Mm-hmm.
C'est peut-être moi qui écris le plus,
oui. Et à votre famille?
Ben, disons que ma femme écrit plutôt à sa famille et moi j'écris plutôt à la mienne.
Oui.
Encore qu'il arrive très fréquemment que j'écrive à la sienne et qu'elle écrive à la mienne. Enfin,
oui. Oui.
Il n'y a pas de règle.
Et qui est-ce qui remplit les papiers administratifs chez vous? La feuille d'impôt, la feuille de sécurité sociale, les maladies par exemple?
Eh bien alors, puisque... Non mais il ne faut pas mettre tout ça dans le même panier. La feuille d'impôt, c'est évidemment moi, parce que ça rentre, si vous voulez, dans le cadre de mes activités habituelles.
Oui.
Mais par contre, les feuilles de sécurité sociale, c'est ma femme.
Bien. Et qui de vous, de votre femme, croyez-vous possède la meilleure orthographe et la plus belle écriture?
Ah, ça c'est plus... C'est amusant comme question. Je pense qu'au point de vue orthographe... Nous avons tous les deux une bonne orthographe. Je ne pense pas que nous fassions une faute d'orthographe.
Non. D'accord.
Et au point de vue écriture, alors ça, il faudrait prendre un expert. Je pense que nous écrivons correctement l'un et l'autre dans la mesure où nous sommes très lisibles.
Oui. Est-ce que vous écrivez beaucoup de lettres personnelles? Est-ce que vous pourriez dire combien par mois?
Alors, oui, au point de vue personnel.
Oui.
Bon, pas plus de deux ou trois lettres personnelles par mois, pas plus.
Oui. Est-ce que vous conservez les lettres qu'on vous envoie?
Oui, mais pas définitivement.
Mm-hmm.
Je les conserve en général un an ou deux. C'est amusant votre questionnaire.
Oui. Quand vous écrivez à des amis, est-ce que vous faites un brouillon?
Non, jamais. Jamais. J'ai d'ailleurs jamais fait de brouillon dans ma vie, enfin presque jamais. Même quand je faisais mes compositions françaises, je ne faisais pas de brouillon non plus.
Ah non. Est-ce que vous relisez?
Ah oui, toujours.
Oui.
Toujours.
Oui. Et vous avez dit déjà que vous écrivez avec un stylo à plume.
Oui.
Oui. Est-ce que vous utilisez jamais une machine à écrire pour écrire des lettres personnelles?
Ah jamais.
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 Et quel type de papier est-ce que vous utilisez? Du papier blanc ou à ligne ou...
Ah, du papier blanc.
Oui.
Parfaitement blanc.
Et est-ce que vous avez occasion de vous servir de papier à carreaux, quelquefois, d'utiliser?
Ah, pas à titre personnel, non, à titre professionnel, oui, bien sûr, mais pas personnel, non, jamais.
Oui. Ça, c'est une question, enfin, qui est très curieuse, évidemment, mais ça vient du fait que le papier à carreaux n'existe guère en Angleterre.
Ah bon?
Et on se demande, enfin, à quoi cela sert. parce qu'on le voit si souvent. Mais on n'écrit jamais de lettres là-dessus.
En Angleterre, jamais, non?
Enfin, non, ici en France, est-ce que...
Ah, non, non, moi je n'écrirai jamais une lettre sur du papier à carreaux, non.
Non. Non. Et si vous écriviez une lettre officielle, est-ce que vous feriez un brouillon?
Ah oui, toujours.
Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la façon de parler des gens qui vous entourent?
Oui, certainement.
Oui. Quel type de...
Quel type d'expression qui m'agace?
Oui.
Eh bien, lorsque... Ah, un exemple concret, c'est plus difficile. Bah, disons d'une façon générale, lorsque les accords de temps ne sont pas faits, hein, lorsque, par exemple, on n'emploie pas le mode subjonctif alors qu'on doit l'employer. Par exemple, lorsque j'entends cette expression, je ne pense pas qu'il est venu. Je ne pense pas qu'il est venu me choque. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'il soit venu. Ça me choque. Ça m'irrite. Ça m'irrite d'autant plus que j'ai affaire à quelqu'un qui devrait le savoir. Mm-hmm. Pour moi, c'est une tâche, comme une tâche à un vêtement.
Oui. Et la façon de parler de vos enfants aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans leur façon de parler?
Non, parce qu'il se trouve que je crois que mes enfants s'expriment à peu près correctement. Non, je reproche seulement parfois à ma fille aînée, qui est une mathématicienne, il lui arrive d'être paresseuse dans son langage et d'employer très volontiers les mots passe-partout, de trucs, de machins, de choses. Enfin, ça ne m'agace pas, si vous voulez. J'en profite simplement pour lui dire c'est pas très précis, je ne comprends pas. Mm-hmm. D'une façon générale, si mes enfants s'expriment d'une façon qui ne soit pas très claire, je vais recommencer, je n'ai pas compris, c'est tout.
Vous les reprenez quelquefois?
Ah oui, bien sûr.
Oui. Oui. Qui est-ce qui les reprend le plus souvent, pensez-vous? Vous?
Je pense que c'est moi. Oui. Maintenant, je dois dire qu'aujourd'hui, il n'en est pas question, puisque mes enfants ont atteint le même niveau de formation que j'avais, donc elles sont capables de s'exprimer aussi bien que moi, enfin, si tant est que je m'y trouve bien.
Et votre femme a même cité que vous sur la précision.
Exactement, oui, bien sûr. Nous sommes très parallèles, puisque elle aussi a fait du latin, du grec, elle aussi a fait philo-lettres et mathématiques élémentaires. Oui. Nous avons exactement la même formation. Nous sommes très, très symétriques.
Ah oui, oui, je comprends. Est-ce que vous puniriez vos enfants pour des fautes de langage?
Oh non, sûrement pas.
Non.
Sûrement pas.
Est-ce que vos parents faisaient attention à la façon dont vous parliez?
Très certainement. Mon père et ma mère... mon père était professeur et ma mère était institutrice. Je précise que mon grand-père était instituteur et ma grand-mère institutrice.
Ah oui.
Alors je pense que c'est une tradition de famille que de s'exprimer à peu près correctement, de ne pas faire faute d'orthographe et d'écrire convenablement. Oui. Je pense que c'est une tradition de famille.
Oui. Est-ce que c'était votre père ou votre mère qui faisait surtout attention?
Alors ça, je ne saurais pas vous répondre. Je pense que ce serait plutôt ma mère.
Mm-hmm.
Je ne vois pas très bien ce que vous pouvez tirer de la sexualité de... enfin, peu importe, je pense que c'était ma mère.
Oui. Et est-ce qu'on prenait des sanctions quelquefois?
Ah non, jamais. Jamais. Je dirais qu'on n'a jamais eu besoin. Étant entendu que lorsque j'étais enfant, si vous voulez, l'une de mes matières fortes, c'était le français, justement, si vous voulez. J'aimais bien ça, donc je pense que je ne méritais pas de sanction.
Oui. Alors, je vous remercie beaucoup.